Transhumance. Après la série de 4 émissions diffusées pendant le mois de Ramadan, il nous a semblé intéressant de poursuivre l'expérience de Transhumance compte tenu de l'intérêt que cette émission a suscité auprès des auditeurs. Ce soir, nous ne pouvions faire l'impasse sur Alger, compte tenu des récentes manifestations qui ont marqué Alger des Beni Mazrana qui ont eu lieu récemment. Au regard de l'importance de la controverse concernant l'origine de la ville, il nous a semblé nécessaire d'aborder ce sujet en 2 parties. L'histoire se taillant la part du lion. Comme toutes les villes méditerranéennes, El Jazeer, Alger, Icosium la romaine, Icosim la phénicienne, a connu toutes sortes de péripéties en rapport avec l'histoire tumultueuse de la Méditerranée. Plusieurs fois détruite puis reconstruite, elle connut des époques de gloire et de déclin. Elle fut reconstruite à partir du Xe siècle par Bolorin ibn Ziri, qui lui donna le nom d'El Jazeer. Donc, ce soir, l'histoire d'Alger revisitée, en compagnie de Hamid et de Malika, qui va sans plus tarder nous présenter nos invités.
Monsieur Hossein Mezali, journaliste, directeur de la rédaction du journal Le Monde Aujourd'hui, et bientôt l'apparition d'un ouvrage Alger, 32 siècles d'histoire. Monsieur Farhane Amzian, qui est communicateur et de formation sociologue. Monsieur Hachi, ancien conservateur des archives nationales et également président de l'association Deria. Messieurs, bonjour et bonsoir plutôt, et merci d'avoir accepté à votre invitation. Alors, pour parler d'Alger.
On a parlé de fondation, de refondation, 5 siècles avant. Le livre de Monsieur Mezali, c'est 32 siècles. Alors, bon, à ce sujet, l'histoire d'Alger, la vraie histoire de la vraie ville, commence quand ?
Bon, en fait, il n'y a pas de vraie, de véritable histoire ou de vraie histoire d'Alger. Ce qu'il y a, c'est que un historien, généralement, interprète les objets qu'il trouve. Y a-t-il à Alger, par exemple, notamment dans le cadre des fouilles archéologiques, des objets qui nous permettent de remonter réellement jusqu'à la date, la véritable date de fondation de cette ville. Ce que nous savons effectivement, c'est que les Phéniciens qui étaient en Méditerranée à partir du 8e siècle avant l'ère chrétienne se sont installés sur toutes les côtes de l'Afrique du Nord, comme ils l'ont fait aussi même jusqu'en soit en Afrique, soit notamment dans la région à Lisbonne, par exemple. Mais le fait est qu'ils se sont installés, nous n'avons pas de date. Nous faisons une comparaison avec une ville comme Utique, qui, elle, aurait été donc fondée à partir... Utique est en Tunisie. C'est une ville qui est entre Tunis et Bizerte. Et donc, à partir de cette date-là, nous pensons qu'à partir du 8e, 7e siècle avant l'ère chrétienne, il y a un comptoir phénicien. Ce qui est certain, c'est qu'une population vivait. Je vois très mal des commerçants, donc les Phéniciens, par exemple, établir un comptoir s'ils n'ont pas en face d'eux une population. Ce que nous savons en ce qui concerne ce que j'appellerais la présence humaine à Alger, et notamment autour d'Alger, nous avons des dolmens qui ont été trouvés dans ce qu'on appelle aujourd'hui la cité Melki. Il y a des dolmens que l'on a retrouvés dans la région de Bni Messous. Il y a, pour les gens qui connaissent Aïn Bnian, l'ex-Guilloville, un lieu qui s'appelle le plateau où il y a des dolmens. Donc la présence humaine existait bien avant. Pouvons-nous dater à partir de... Disons tout simplement que c'est à partir de la présence des Phéniciens. Je voudrais juste corriger une toponymie. Il ne s'agit pas d'Icosium. Icosium est le terme latinisé d'un ancien nom. C'est Icosim, I-K-S-M, que l'on retrouve dans des pièces, lesquelles pièces ont été trouvées en 1940 dans le quartier de la Marine. Voilà, si vous voulez, pour débuter un peu.
Alors, Monsieur Mezali.
Moi, je maintiens le 32 siècles. Et je dirais même que Alger existait peut-être il y a 35 siècles, parce que là, il n'y a plus de preuves. Les Berbères qui habitaient ici n'avaient pas laissé des écrits, sinon des preuves tangibles pour pouvoir proposer une datation précise. Pourquoi 32 siècles? C'est très simple. Les Phéniciens ont été rejetés par les Mèdes, c'est-à-dire les Irakiens en gros, et les Pharaons, il y a à peu près 35 siècles, vers la mer, ne sachant quoi faire. Ils ont fait deux choses, les plus importantes du monde d'ailleurs. Ils ont créé l'alphabet que les Grecs leur ont volé par la suite, le premier alphabet du monde. On ne parle pas de la Chine, c'est autre chose. Et ils ont créé la navigation, le cabotage. Dès lors que ce cabotage a commencé à fonctionner, ces gens-là, ne pouvant aller en Asie mineure parce que c'est la frontière terrestre qui les aurait bloqués, ils ont travaillé sur l'Est. Et comme ils naviguaient de jour, une navigation diurne, ils sont arrivés de 35 à 40 km par jour, parfois moins, en temps mauvais, en mauvais temps, ils sont arrivés vers nos rivages. Ce rivage-là, attention, mais avant d'arriver à Alger, il y a aussi Rochegonia, Cap Matifou, ou la Tamenfoust, comme on dit aujourd'hui, qui, eux, sont plus favorables. Le port de Tamenfoust est plus favorisé que celui d'Alger, qui a les mamelons, les fameuses petites collines, là, qui empêchaient les gens d'arriver jusqu'au rivage. Parce que du rivage au mamelon, il y a à peu près 350 à 400 mètres, n'est-ce pas? Ces gens-là sont arrivés. D'ailleurs, la légende de Solène le confirme quand il parle des 20 compagnons d'Hercule, lequel Hercule partait, d'ailleurs pour une pénitence, chercher des pommes au jardin des Hespérides qui se trouverait à peu près dans l'Atlas marocain. Quand, d'ailleurs, même Juba II a ordonné qu'on fasse des sculptures sur Hercule. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, la légende se confondait avec la réalité le plus souvent. Et on racontait aussi énormément de choses qui étaient censées être légendaires. En réalité, c'était de la réalité pure. Voilà comment on s'est posé la question. On a beaucoup lu, on a lu les anciens, Stéphane Xell, on a été même très loin avec ceux qui ont surtout se sont occupés de la Méditerranée, le brassage de population qui a eu lieu, notamment Fernand Braudel. Et qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert qu'on pouvait s'arrêter sur 32 siècles parce qu'il y a une datation précise, parce qu'il y a le mouvement de l'autre côté en Asie mineure et au Moyen-Orient des pharaons qui ont bouté de leur territoire les fameux Phéniciens, qui sont du pays de Canaan comme les autres. C'est pas une invention. Et ces gens-là, d'ailleurs, Hachir l'a dit avant moi, ces gens-là, quand ils sont arrivés avec leur petite felouque ou leur boutre ici, en face d'Alger, ils ont trouvé des gens, après qu'ils se soient renseignés à Rochegonia et qu'ils avaient inventé.
En fait, il y avait une population, et que cette population, même si elle n'était pas tournée vers la mer, parce que nous n'avons pas de traces, encore une fois, archéologiques qui puissent nous le confirmer, mais il est certain qu'autour d'Alger, c'était des vergers, on fabriquait du miel, etc. Donc, et véritablement, il y avait une population qui était peut-être beaucoup plus faite d'agriculteurs que de pêcheurs. Mais encore une fois, ce ne sont que des hypothèses que nous avons.
C'est pourquoi... ce qu'a dit M. Hachi au départ de son intervention est très important. C'est-à-dire qu'il nous faut toujours faire la part des choses entre l'histoire scientifique, celle qui est attestée par des preuves archéologiques établies, etc. Et l'interprétation de textes. Un texte, vous savez, bon, soit c'est une légende, effectivement, Mzali a raison, souvent les légendes ont un fond réel, mais ensuite il y a une transmission souvent qui s'est faite oralement à travers les siècles et les espaces, qui a fait qu'il y a des déformations, donc des récits, il y a un enjolivement, hein. Quand on veut raconter, on a besoin d'enjoliver, de magnifier, de rendre les choses belles et exceptionnelles.
Oui.
Par conséquent, moi je dis les deux formes d'histoire, la vraie histoire, bien sûr, c'est l'histoire scientifique, hein, oui. On s'entend là-dessus. Mais toutes les autres formes d'histoire sont nécessaires parce qu'elles donnent envie de découvrir et d'aller plus loin. Oui. Par exemple, je suis sûr que sur ce que dit mon ami Hossein Mzali, il y a beaucoup à redire sur le plan scientifique. Je veux dire, il travaille là, on sent bien qu'il fait jouer à certains moments son intuition. Mais c'est important de faire
mais
ça.
Mais monsieur Mzali a écrit l'histoire aussi, puisqu'il y a un ouvrage qui va paraître.
Oui,
donc,
oui. Non, mais je parle de son ouvrage. Oui. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut bien considérer que concernant l'histoire d'Alger et de nombreuses autres histoires de par le monde, mais pour Alger, puisque c'est notre sujet, il y a de grandes phases ou de cette histoire qui demeure encore floue, imprécise, et comme l'a dit Mzali, par exemple,
pas suffisamment
on a d'ailleurs un problème, c'est que les autochtones, les anciens Algériens, disons, nos ancêtres, ceux qui étaient là, n'ont pas laissé de traces écrites.
Oui.
Et que par conséquent, les traces dont nous disposons sont soit latines, soit grecques, soit, écoutez, si vous vous intéressez à Jugurtha, il faut lire Tite-Liv, qui est romain et qui donc défend un point de vue romain, avec une vision romaine, etc. Bon, je ne dis pas qu'il faille être, fermé, au contraire. Il faut s'ouvrir à tout. Mais nous avons cette difficulté. Et concernant la période phénicienne, on a beaucoup d'hypothèses, mais peu d'éléments.
Nous avons parlé de comptoirs, donc de gens qui font surtout du troc, du commerce, etc. Bon, nous savons tous que Alger est fille de la mer. N'aurait été la mer, peut-être qu'Alger n'aurait pas existé, hein, puisque ce sont des gens qui se sont installés là, qui ont commercé. Bon, il est vrai que lorsque nous nous trouvons dans ce quartier que nous appelons le quartier de la marine, c'est-à-dire la partie la plus basse, la partie la plus proche de la mer, bon, la configuration actuelle n'est pas du tout la configuration d'Alger, hein. Ou de ce qui est Alger aujourd'hui. Ben pour vous donner un exemple, lorsque nous partons sur Tipaza, lorsque nous arrivons vers le 7 de Tipaza, vous avez, on voit une grève, il y a une sorte de cric. Eh bien, c'était ça, Alger. Or, cette grève n'existe plus dans Alger, puisqu'aujourd'hui, nous avons un front de mer qui pratiquement a pris sur la mer elle-même.
Donc, Alger a gagné sur la mer. Donc
énormément. Vous savez,
bon, des travaux d'aménagement.
Si vous pouvez, juste une distance. Hein, vous avez à peu près 100 mètres gagnés sur la mer, avec l'Alger actuel, bien sûr,
si
l'Alger
vous
moderne.
Les gravures anciennes, par exemple, début 19e, hein, de la Djemaa el Kebir, vous voyez bien sur ces gravures que Djemaa el Kebir était au ras d'une falaise.
C'est ça, absolument.
Au bord de l'eau.
Et l'emplacement de Djemaa el Jdid.
Le gain sur la mer a été plus important par la suite au 20e siècle. Le champ de manœuvre, par exemple, toute la place du 1er mai et tout ça, c'était la mer.
C'est surtout à partir de la création ou la construction de ce que nous appelons le front de mer.
Oui.
C'est à partir de pratiquement 1860. Mais ce que je voulais dire, c'est que, en fait, lorsqu'on parle de la période romaine, là, nous avons quand même un peu plus de renseignements. Il y a ce que j'appelle personnellement la carte d'identité d'Alger. Lorsque nous nous trouvons à l'angle de la rue Caftan et la rue Baba Azoun, il y a, et je regrette que cette plaque soit là, qu'elle ne soit pas mise en valeur, c'est sur cette plaque, qui est donc en latin, où l'on trouve pour la première fois le mot de Icosita Nor.
Qui signifie
en fait, Icosita Norum, parce que le UM a été enlevé, et qui voudrait dire les habitants d'Alger, parce que Alger a été, pendant la période romaine, un municipe de droit latin. L'histoire nous apprend que c'est Vespasien qui lui a donné ce droit. Bon, donc il y avait une population, il y avait une municipalité, la ville était assez importante. Bon, mais ce qu'il y a, et de toute façon au niveau de l'archéologie, il y a encore de nos jours des restes archéologiques qui sont sous terre jusqu'à maintenant. Bon, on prend le cas au niveau de Jamak Chawa, par exemple. Et puis, il n'y a pas très longtemps, 1995, lors de travaux, de terrassement ou de voirie, on a découvert une mosaïque qui, malheureusement, n'a pas pu être
préservée
comme il faut. Là, nous avons un bassin, c'est donc une maison. Non, là, à ce niveau-là, si vous voulez, au niveau archéologique, nous avons, ce qu'il faut dire, en fait, c'est que Icosium, donc municipe romain, en fait, très peu de gens ont écrit, très peu durant la période antique, on a très peu écrit sur Icosium. Mais il est certain que les vestiges archéologiques et un certain nombre d'inscriptions existent encore à Alger.
Vous répondez...
Non, je ne réponds pas. J'apporte rapidement quelques petits éléments. Effectivement, en matière de traces archéologiques, on a plus d'éléments sur la période romaine. Quand on a construit, par exemple, Jam al-Kbir a été construit sur l'emplacement d'un temple dorique, c'est-à-dire c'était une église donatiste de l'époque romaine. On a retrouvé ses fondations. Sous le lycée Emir Abdelkader, on a retrouvé des catacombes de la période romaine. On a trouvé également des pièces de monnaie. On a trouvé... Donc les éléments sont plus importants. Oui. Ensuite, les Romains... C'était un empire, et cet empire avait donc ses structures et a eu une écriture et quand même des témoignages qui sont restés et qui demeurent à ce jour. Ce n'est pas le cas pour les Phéniciens, puisque Hussein Mzali l'a bien dit tout à l'heure,
ils sont restés moins longtemps.
Non, d'abord ils étaient commerçants, et ils avaient un état qui n'était pas aussi centralisateur que celui que pouvaient avoir eu les pharaons ou l'empire de Rome et tout ça. Et donc
ils étaient moins puissants.
Oui, ils se déplaçaient beaucoup. Et d'ailleurs, c'est marrant de constater que la mondialisation dont on parle tant aujourd'hui, elle avait commencé avec eux.
Oui. Donc, Monsieur Mezali, est-ce qu'on peut, comme nous l'avons dit au début de notre émission, Alger venait de fêter ses 1000 ans
avec... Je reviens un peu sur cette période, parce qu'elle est assez floue.
Oui.
C'est assez flou. Quand on parle des Phéniciens et leur commerce, l'expansion de leur commerce par cabotage d'abord et ensuite... Ils n'ont plus existé. D'autres ont pris la relève, notamment les Berbères, d'ailleurs, avec Massinissa. Ce que je dois dire, c'est que ce n'était pas un État phénicien qui, lui, était en épanouissement sur la mer Méditerranée. C'était des villes, comme les villes hanséatiques qu'il y avait en Allemagne. Ces villes peuvent s'appeler Sidon ou Saïda ou Garit. C'est là où est né, d'ailleurs, l'alphabet. Et trois autres villes qui étaient interdépendantes sur le plan commercial. Mais ces villes-là n'avaient pas d'agriculture et commercialisaient des objets, sinon manufacturés, vers les autres villes côtières. Mais ce ne sont pas leurs productions expressément. Ce sont des produits qui venaient d'ailleurs.
Oui, d'Égypte, de tout le bassin méditerranéen.
De tout le bassin méditerranéen. Et les produits que nous recevions, à Alger, à l'époque.
Des échanges.
Ce sont des produits peut-être tunisiens, ce produit grec, ou je ne sais pas.
C'était les trabendistes de l'Antiquité.
Oui, si tu veux, mais ils étaient corrects, parce que ce ne sont pas des agressifs. Ils n'ont jamais agressé un pays, ou très très rarement. C'est quand ils ont été acculés à se défendre, bon, ils ont un peu rendu la monnaie de la pièce, comme dirait l'autre. Surtout pour des commerçants, je crois que ça... Et ma foi, entre-temps, nous avons oublié un jalon, un très très grand jalon, parce que ces villes... non organisées, avec un pouvoir central, ont été appelées à disparaître parce qu'elles étaient fragiles. Et à l'époque, à cette époque de 34-35 siècles, elles étaient très vulnérables parce qu'elles accumulaient tellement de richesses qu'il y avait de la convoitise autour d'elles. C'est pour ça que les villes de Saïda, Sidon, par exemple, celle-là a été, j'allais dire vite, un siècle et demi, deux siècles. Mais ce que nous savons, et avec précision, aujourd'hui, parce que l'histoire n'est pas une science exacte, l'histoire, elle ne cesse jamais de phagocyter des renseignements qu'on lui apporte, les plus exacts possibles et les mieux recoupés, les mieux vérifiés possibles. Entre-temps, il y a eu Didon, la déesse Didon, qui est venue à Carthage et qui a demandé aux Massiles, c'est-à-dire la famille, la corporation des tribus de Massinissa de Gaïa, de s'installer. Au départ, ce n'était pas pour former un empire anti-romain, c'était simplement pour essayer de réactiver ce qu'étaient les Phéniciens pour les Carthaginois qui vont naître. Et c'était sur l'emplacement offert par les ancêtres de Massinissa à cette déesse. Pour résumer, leur croyance était surtout Saturne, Balamon, ça s'arrête là. Or, ce que j'ai lu sur les Phéniciens, ce que j'ai lu sur les Grecs, etc., autour de la Méditerranée, ce sont des gens qui savaient compter. Et ils savaient faire leur comptabilité. Et surtout, quand ils accordaient leur confiance sur le plan commercial, ils restaient fidèles à ces gens-là. Je ne pense pas que la population qui a été trouvée au bord actuellement sur ce renflement, sur ce gros ventre de la montagne de Bouzeria qui s'appelle Alger, qui est la vieille ville, notre vieille ville, je ne pense pas que les gens qui y habitaient étaient formés autrement que par le statut de ce qu'on appelle l'agnatique. C'est-à-dire, c'est un agna qui avait sa famille, qui avait des petits jardins autour de lui, mais cette famille, elle était agnatique. C'est-à-dire, tout le monde était là. Les alliés, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Et ça a formé le village originel de ce qu'on connaît aujourd'hui d'Alger, le noyau dur. Ce noyau qui n'a jamais été détruit. Et si...
Est-ce qu'on peut le situer géographiquement ? Est-ce que... Au niveau du...
On va venir tout à l'heure à la construction d'Alger par ceux qui l'ont occupée au fur et à mesure. Et on verra la forme qu'elle prendra parallèle à la mer, avant de monter, par exemple, jusqu'à l'actuelle la rue Marengo. Ensuite, on verra qu'elle, avec les Turcs, elle prendra encore plus d'expansion vers la hauteur, elle montera jusqu'à Serkati, etc., etc. Il y a beaucoup à dire. Ce n'est pas en 365 pages du livre que je viens d'écrire que je vais résumer l'histoire d'Alger. Il y a beaucoup à dire. Ça, c'est comme quand vous discutez en hagiographie, par exemple, avec un prélat de haut niveau, il vous dira que l'histoire de l'Église, c'est ça la vraie histoire du monde. Mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus démocrates, ils vous diront que dans l'histoire réelle, il n'y a pas trace de l'histoire de l'Église.
Oui, en général, quand on parle d'histoire... Il faut parler de plusieurs histoires.
Monsieur Zali a parlé de... Et c'est vrai qu'il y a un pan que nous oublions dans l'histoire. Lorsqu'on parle des Phéniciens, on a leurs proches parents, ce sont les Carthaginois. Et en fait, les Carthaginois, après avoir occupé ce qui est actuellement la Tunisie, du moins une partie de la Tunisie, eux aussi se sont installés sur les mêmes cités qu'ont connues les Phéniciens. Mmh. Mais il y a aussi un autre pan de l'histoire, c'est que il y a une population dans ce que nous appelons le Maghreb central, puisqu'il s'agit de l'Algérie, puisque nous parlons de l'Algérie. Alors nous avons, disons tout ce qui était, tout ce qui est l'Afrique du Nord. En fait, nous avons une population, une très grande tribu, ce sont les Numides, lesquels Numides étaient partagés en deux grandes confédérations de tribus, les Massiles et les Massassiles. Or, Alger fait partie un peu du royaume des Massiles. Il est certain, sans aucun doute, qu'une population berbère, une population Massile, vivait aussi et avait occupé cette partie. Or, ce qui nous manque, c'est l'écrit. Et nous espérons qu'un jour, moi je vous dis franchement, quelque chose d'intéressant, c'est que on verra par la suite qu'Alger est une ville qui a été occupée très souvent. C'est une ville sur une ville, donc il y a une surimposition de ville en réalité. Ce qui serait
disons
merveilleux.
Au niveau de la mémoire historique, oui, non, mais, construit sur des strates.
Bien sûr, non mais ce qui serait merveilleux, voilà. Ce qui serait merveilleux, c'est de faire à ce moment-là, de carrément creuser des puits et essayer d'aller le plus profond démon possible pour essayer de retrouver d'exhumer ce qui peut exister.
Monsieur Mézali.
Oui, moi, je sais que c'est mon copain Farhadi qui devait parler. Je te prends une petite minute, ou même cinq minutes si tu veux. Hein. Bon, c'est vrai qu'il y a les Massiles et les Massaïsiles. Massaïsiles, Massiles. Massiles, c'est la famille de Massinissa. Les Massaïsiles, c'était... Tu te souviens, c'était son rival.
C'est cela, absolument.
Wasmouba, là j'ai oublié.
Sifax.
Sifax, voilà. Qui sont parents, en plus. Ils sont tous parents là-bas. Oui. une confédération de tribus qui s'appelle les Massaïsil et une autre confédération qui était beaucoup plus grande. Nous parlerons des Gétules, de l'autre côté, les Berbères du Sud, qui sont restés des Zenata, eux, Zenata, c'est-à-dire nomades, beaucoup plus. Hein. Les Massil, donc, c'est le côté est, à partir de Constantine, plus ou moins, hein, Constantine, et de ce côté-ci, à partir de Sétif, plus ou moins, parce qu'il y a jamais eu d'affrontement direct comme ça, il y a toujours eu un nomensland entre eux, c'est Sifax. Bon, la longue histoire des Berbères, pour l'hégémonie de l'une ou l'autre partie, ça a duré des siècles. N'oubliez pas aussi que les Berbères ont dominé l'Égypte pendant 2000 ans, et parmi les empereurs d'Égypte, nous en avons eu beaucoup qui sont Berbères. Et le dernier en date sera Ramsès II. Ramsès II, c'est un Berbère, ce n'est pas autre chose. Hein. Bon. Pourquoi Alger a mis longtemps, très longtemps, avant de devenir une grande, grande capitale, une grande, et d'ailleurs avant que la politique ne s'intéresse à elle. Tout simplement parce que toutes les invasions qui viennent de l'Est passent par Gafsa Gabès, directement pour aller vers le Maroc, le sud du Maroc, du côté de Sidi El Messa, à peu près. C'est ça la ligne droite pour aller à l'Atlantique.
Le corridor.
Or, Alger est excentré par rapport à ce corridor habituel de guerre, de paix et de commerce. Il ne faut pas oublier aussi que ce corridor-là a servi au commerce lointain du Moyen-Orient, qui allait chercher de l'or au Soudan, ce qu'on appelle le Mali aujourd'hui.
C'était la route des caravanes.
Voilà, la caravanière. Ou d'ailleurs, une ville à 12 km d'Adrar, qui est Tamantit, a joué un très, très, très grand rôle à l'époque, justement, de ce commerce lointain. Bon, nous nous intéressons aujourd'hui à Alger, on ne va pas parler de Tamantit, déjà que nos auditeurs ne comprennent pas grand-chose ce que nous disons. Maintenant, on revient. Effectivement, Carthage a joué un très grand rôle. Mais Carthage est arrivée ici, en tout cas, la déesse Didon, elle est arrivée ici à peu près il y a 27 siècles. 27-28, même, certains disent. Parce que les villes qui m'a Ougarit, qui m'a Sidon, et il y a l'autre ville connue du Liban actuelle,
Tyr,
exactement. C'est une très grande ville de cabotage, de marine marchande, etc. Ils ont mis à peu près, pour se dégager, en mourant, se dégager du statut de ville commerçante, un peu comme les Allemands de l'Océatique, ils ont mis trois à quatre siècles. Et c'est pour cette raison, pour reprendre le commerce de leurs ancêtres, sinon de leurs parents directs, d'ailleurs, de leurs propres pères et mères, que les Carthaginois sont arrivés là avec Sidon. Bon, c'était une affaire provisoire, c'est devenu un empire. Bon, là se déclenchent toutes les guerres puniques possibles, avec les trois guerres connues, les guerres puniques, et dans lesquelles les Berbères n'ont pas été absents. Ils ont joué un rôle. Comme Gaïa a joué un rôle, Massinissa a joué un très grand, puisqu'il a été un grand général qui a combattu pour les Romains et qui a combattu par la suite, une fois qu'il a compris que ses intérêts n'étaient pas à Rome, mais ici, en Afrique. D'ailleurs, il a travaillé avec les Romains main dans la main pour liquider Carthage et ensuite sauvegarder son propre empire, si on peut appeler ça comme ça, puisqu'il est arrivé par la guerre, malheureusement ou heureusement, à réunifier les Berbères et à créer un État.
Après la chute de l'Empire romain, jusqu'au Xe siècle environ, nous constatons un vide de plusieurs siècles. Amzien.
Il y a un grand trou dont on ignore tout. C'est la période qui part de la chute de l'Empire romain, de sa décadence. Rome, donc, qui était au fait de sa puissance, a subi sa première révolution avec les mouvements des esclaves pour leur liberté. Puis il y a eu la naissance du christianisme des origines, c'est-à-dire un christianisme révolutionnaire qui était contre Rome en tant qu'empire. Et par la suite... il y a eu une création de l'Église de Rome, donc l'Empire a intégré le christianisme. Chose intéressante, la première hérésie chrétienne, le premier schisme dans l'histoire du christianisme est parti d'Algérie, à travers Saint Donat et le mouvement de ce qu'on a appelé le donatisme. Donc il y a eu ce mouvement-là de schisme qui a eu lieu après les révoltes de Jugurtha, Tacfarinas, etc. Ça a été un élément important. Mais toujours est-il, on sait qu'après, l'Empire de Rome donc, se disloque, etc. Et on arrive au Xe siècle, où Boulorin ibn Ziri fonde trois villes importantes. C'est Alger, Médéa et, si Miliana. Je ne me trompe pas, Miliana. Voilà. Et Alger étant la tête de pont de ce triangle étatique et son ouverture sur la mer. Mais avant ça, on n'a aucun élément. C'est-à-dire qu'il y a des siècles d'obscurité concernant l'histoire d'Alger. Icosim, c'est-à-dire qu'il y a eu Icosim, la phénicienne, Icosium, la romaine.
Icosium, en fait. Ça va rester Icosium.
Donc, pour situer historiquement, c'est bon, après la chute de Carthage. Qu'on peut parler d'Icosium ou c'était...
Non, Icosium, c'est déjà à partir de 40 de l'ère chrétienne, n'est-ce pas ? Mm-hmm. Bon, puisque nous savons que Juba, par exemple, Juba II, qui était prince berbère, prince numide, il gouvernait en même temps. Alger faisait partie, enfin, Icosium faisait partie. Voilà, Icosium puis Icosium a fait partie de sa province. Donc. Mais ce qu'il y a lieu de dire, c'est que nous avons là aussi peut-être passé très rapidement au Xe. Il faudrait dire aussi que nous connaissons l'invasion des Vandales. Mmh. Hein, nous savons que les Vandales sont venus pratiquement du 5e au 6e siècle. Il y a, un juste retour. En fait, il y a Byzance aussi. Nous oublions un peu l'Est, puisqu'il y a aussi la naissance de l'Empire de Byzance. Et les Byzantins essaient à ce moment-là de recouvrer, en quelque sorte, ce qui était l'Empire romain, puisqu'ils se considéraient comme étant les successeurs, n'est-ce pas, des Romains. Ils essaient de revenir sur le littoral de notre pays, donc sur le littoral de l'Algérie. Bon, ce que nous savons, par exemple, durant la période vandale, il y a eu un évêché à Alger. Mmh. Dans ce qui était Icosium, l'évêché d'Icosium, je citerai le nom d'un évêque qui s'appelait Victor, par exemple. Bien. Alors, non, il y en a eu plusieurs, en réalité.
Donc, la ville était importante pour avoir un évêché.
Bon, mais la ville était importante. Or, ce qui est difficile...
Il y a des textes qui affirment qu'à l'époque, un évêché, c'était l'équivalent d'un curé de campagne.
Hein. Oui, mais d'accord. Non, mais en tout cas, il y avait une population...
Il n'y avait pas 800 km2.
Il y avait, de toute manière, ce qui est certain... Je reviens toujours à l'archéologie, n'est-ce pas ? D'accord. Et je dis que le tracé est donné par l'archéologie. Mais en réalité, quand on parle d'Algérie, quand on recherche, quand on fait des fouilles, il y avait un peu partout des restes archéologiques, même à l'extérieur de ce que sera Alger, de ces fameux 50 hectares. Bien. Mais restons toujours dans la ville intramuros, hein, pour expliquer un peu mieux les choses. Et donc nous avons une période, c'est quand même plus d'un siècle de présence vandale. Puis, les fameuses tablettes d'Albertini existent. Vous pouvez on peut les voir au musée des Antiquités, par exemple. Bien. Et puis, après cela, donc... Après,
ce que tu
après
appelles les tablettes d'Albertini, oui. C'est les fameux contrats agraires trouvés de l'époque vandale, c'est ça ?
C'est cela, absolument. Ah, d'accord. Bien. Alors, donc, et c'est trouvé à Alger, ce n'est pas trouvé ailleurs. Donc, de la même manière qu'on retrouve les Byzantins, mais ce qui est certain, c'est que, j'allais dire, le substrat, cette population qui existait. Parce qu'on parle toujours de romaine, etc. Moi, je préfère le terme époque romaine. Il y a une présence romaine, et il y a une présence vandale, il y a une présence byzantine. Et il y a une population qui est là, bon, qui, bien sûr, accepte, si vous voulez, ou prend les coutumes, les habitudes de celui qui gouverne. Ce que je voulais dire, c'est que le terme Bni Mizrna, et là, je reviens peut-être au texte de Slan, par exemple, ouais. Ce qui est l'histoire de l'abbé. Il dit que Bolorin a donc fondé, et en vérité, Bolorin n'a pas construit la ville, il n'a pas bâti la ville, il n'a pas créé la ville d'Alger, il l'a relevée de ses ruines. Parce que sinon, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on effacerait un certain nombre de siècles pour dire que quelqu'un a créé de toutes pièces. Or, il a relevé la ville de ses ruines, et le terme Bni Mizrna, à mon sens, existait, puisque quand on lit de Slan, je parle enfin, il disait la ville appelée Jazair Bni Mizrna, ce n'est pas El Jazair, ça viendra avec les Hafsides. Donc c'est Jazair Bni Mizrna. Non, c'est Ibn Khaldoun, mais de Slan traduit.
Pour que les auditeurs puissent comprendre.
Vous suivez.
Donc c'est l'histoire des Berbères de Ibn Khaldoun traduite par le baron.
Bien sûr, voilà. Oui, mais moi je pense que si l'on a parlé de ce millénaire d'El Jazair, je pense que c'est à partir du moment où la ville véritablement devient une cité, où elle va avoir ses murailles, où véritablement il y a une dynastie que nous connaissons parce qu'il y a l'écrit. Or, jusqu'à avant, et là je reprends ce que disait Farhani, il a dit qu'il nous manque beaucoup d'éléments pour connaître, il a même parlé d'un flou. N'est-ce pas ? Donc, à partir de là, peut-être, me semble-t-il, l'histoire d'Alger va être mieux connue à partir du Xe siècle. Et je dirais, bon, je prends tout simplement, tout à l'heure, Mzali a parlé de Solin, lorsqu'il a parlé de la fameuse légende, etc. Moi, je reprendrai peut-être celui qui a écrit en premier lieu et qui a fait une description, c'est le Bekri. Et c'est là qu'il parle du temple. Et en même temps, il dit, là je reprends encore une traduction, puisque je ne peux pas le dire en arabe, je le dis en français.
Qui est un géographe arabe, c'est de quelle période ?
Du Xe siècle.
Moi je dirais que c'est un géographe espagnol de religion musulmane.
C'est un andalou, enfin, d'origine.
Oui. Un maghrébin. Bien. Non, c'est un espagnol.
Andalou.
Ou andalou, musulman. Je ne vois pas pourquoi je change. Il est né en Espagne, il a été... Tu dis en Espagne. Quand on voit Omaoui, tu m'excuses.
Oui, je t'en prie.
Le khalifa, il y avait plusieurs khalifas. Le khalifa Omeyyad, c'était désintégré en petites constellations, de petites communautés, même des petites communes. Même. Alors, Obeid el-Bekri.
Ah, mais c'est après.
Obeid el-Bekri, qui est un grand géographe, n'a jamais mis les pieds. Il a simplement envoyé des agents, et quand on est agent, il y a une connotation de secret là-dedans. Il voulait pousser les Omaouiens, qui étaient encore vigoureux sur le plan des guerres, à venir à envahir Alger pour la prendre et instaurer un autre khalifa ici, à Alger. Or, le Bekri, quand il décrit... nous sommes à peine au XIe siècle. Nous sommes en plein Moyen-Âge, quand il décrit Alger, et avec une justesse, et un ajustage des phénomènes, quelque chose de faramineux. Il dit que cette ville, n'est-ce pas, c'est une ville qui a beaucoup de prestige et qui a dû être la capitale d'un grand empire avant. Ibn Khaldoun, de son côté, quant à lui... généalogiste extraordinaire, avec une verve que l'on connaît, un verbe extraordinaire, lui, il dit que la ville, cette ville dont je vous parle, est une ville qui a été construite, n'est-ce pas, par des sinhajas de la première race. Et dans la généalogie n'ta'u, la sienne, quand il parle d'Ibn Mizrna et d'Ibn Jahd, il les situe dans les Sinhajas de la première race. Qu'entend-il par première race ? En fin de compte, de ceux qui ont habité ce pays dans les plus lointains millénaires, l'obscurantisme. Bon, d'après les études les plus solides jusqu'ici, on sait que l'Algérie, le Maghreb central et même le Maroc, ont été habités il y a 350 000 ans.
Donc vous n'êtes pas d'accord avec la datation de 1000 ans de
Il n'y a jamais de datation précise, il y a l'âge.
Non, je crois que non, je reviens encore une fois, c'est pas une, je ne pense pas que même dans l'esprit, on ne peut pas dire d'une ville qu'elle date de 1000 ans.
C'est oui, donc c'est un choix arbitraire. Qu'est-ce qui a déterminé ce choix?
Alors, je vais vous le dire, à là j'interviens, alors, parce que le problème m'intéresse directement.
Vous allez intervenir.
Quand la décision a été prise de fêter le millénaire, les gens ont voulu fêter le millénaire de quoi? Du baptême. Et c'est à Alger. Voilà exactement l'histoire. Et quand on a commencé à parler dans les radios un peu partout, écrit dans la presse, etc., on a 1000 ans, vous amputez, vous êtes en train de faire la bêtise d'amputer l'histoire d'Alger de 22 siècles, peut-être 24, peut-être 30 siècles. On ne nous a pas écoutés. Mais dans le langage, dans le discours qui s'en est suivi, il y a eu quelques aménagements discursifs, n'est-ce pas, discursifs, pour dire, oui, Alger, Écosium. Moi, l'histoire d'Alger, c'est une histoire intégrale qu'il faut.
Absolument.
Qu'elle se fût appelée Écosium, Écosé, Zanzibar, ou n'importe quoi, c'est l'histoire d'Alger. De ma ville.
D'accord, Monsieur Hachi, votre avis.
Non, mais j'allais dire aussi, bon, enfin, je crois vous l'avoir donné tout à l'heure, je vous ai dit qu'en fait, on est peut-être parti de l'idée où, c'est un peu avant 360, donc avant 972, hein, Bologhine, Ziri est mort en 972, Bologhine devient gouverneur, mais en fait il ne gouverne pas à Alger, mais lui gouverne à Kérouan. Il ne faut pas oublier qu'il a gouverné aussi à Chir, parce qu'il y a une autre ville. Ferhani tout à l'heure a parlé de trois villes qu'aurait donc relevé ou fondé, je reprends ces termes, fondé Bologhine, mais il ne faut pas oublier qu'il a été aussi le souverain de la capitale construite par son père, parce qu'il y a, un premier Chir, il y a un deuxième qu'on appelle Benya, et il y a les dernières recherches ont retrouvé même un troisième site d'Achir dans la wilaya de Médéa. Donc, je suppose qu'au départ, bon, on a parlé, parce que à partir de là, encore une fois, c'est du moins mon interprétation, à partir de cette date-là, il y a une cité, il y a une ville. On commence à écrire sur cette ville. Là, je vous ai parlé d'El Bikri, je peux parler d'Ibn Hawqal, l'Idrissi, etc. Beaucoup de gens ont donc parlé de cette ville, on l'a décrite. Auparavant, vous savez, très peu de gens ont décrit la ville. On ne décrit pas la ville d'Alger. Ce sont surtout les recherches archéologiques. Peut-être que dans l'esprit de ceux qui ont pensé au millénaire, il y a, si vous voulez, une date, mais ce n'est pas, je ne crois pas que ce soit la date de la naissance de la cité, quel que soit le nom, qu'elle est portée.
Alors, voyez, voilà Monsieur Farhani, votre avis sur la datation?
Mon avis, comme disait Hachi, une ville ne se crée pas en un jour. C'est vrai que peut-être on a cédé à la contagion mondiale de l'an 2000 et qu'il fallait que nous placions notre bille là-dedans et qu'on affirme notre personnalité. Donc il y a ce phénomène aussi de conjoncture mondiale. Il y a un autre aspect, peut-être qu'il faut dire, c'est que la refondation, si on peut dire, d'Alger par Bologhine ibn Ziri, c'est quand même... se distingue quand même par la chose suivante, c'est que c'est la première fois qu'elle est fondée, disons, ou refondée de l'intérieur, par une dynastie qui se trouve là. C'est la différence essentielle qu'on peut établir. Écosim, c'est les Phéniciens.
Oui.
Bien qu'on peut se poser la question, si un bon commerçant, comme l'étaient les Phéniciens. Ben, j'espère qu'il n'est pas d'accord. On va discuter.
Mes amis.
Les Phéniciens étaient de bons commerçants et un commerçant ne s'installe que là où il y a un marché. Par conséquent, on n'a pas les éléments sur ce marché et sur la vie qui existait à ce moment de notre côté, je veux dire, de celui de nos ancêtres, mais il est certain que ça existait. Ensuite, il y a eu Écosium, c'est les Romains qui reprennent donc ce comptoir phénicien et qui le développent à leur façon. Al-Jazair, par contre, c'est un passage, c'est différent, ça vient de l'intérieur. Maintenant, cette distinction ne doit pas être prise comme une ségrégation. Il n'y a pas d'histoire pure dans toute l'histoire de l'humanité, y compris chez les Esquimaux du pôle Nord, dans l'Antarctique, il n'existe pas de société pure, comme il n'existe pas d'État, je veux dire, d'histoire pure, dans le sens où elle aurait été créée.
Ex oui, nihilo, l'histoire est faite par les hommes.
Elle est faite par les hommes. Non, mais il y a une multitude d'influences, etc. Moi, quand j'aborde Alger, je refuse qu'on s'arrête à une date ou à une autre. C'est un processus qui va très loin dans les siècles, qui commence depuis les dolmens de la cité Malki, qui va jusqu'aux premières traces de l'apparition de l'homme libéro-mauricien, l'homme de Mishtal Arbi, qui est le prototype le plus ancien de l'être humain qui a été découvert.
Néolithique.
Chez nous, non, je ne sais pas, Hussein, Hachim pourra te dire
supérieur.
Ça. Donc, il faut avoir un esprit très ouvert là-dessus. Donc, qu'on ait voulu fêter, c'est bien. C'est
un excellent. Oui, pardon. Est-ce que, bon, la question qu'on est en droit de se poser, est-ce que c'est l'existence de fonds documentaires qui détermine l'écriture de l'histoire d'une ville ou... Bon, concernant peut-être la période antique, il y a peut-être, peut-être
ville,
des hiatus.
Une ville, c'est d'abord des murs.
Oui, d'accord.
C'est
mais
des murs qui
concernant
sont
la période
liés...
Beni Mezrana,
qui veut prendre
c'est
la
ça la question qu'on est en droit de se poser.
Le terme Beni Mezrana lui-même, puisqu'aujourd'hui, on parle de Jazair Beni Mezrana, et on laisse supposer, du moins c'est comme ça, je pense que ce n'est pas très clair. On a l'impression que c'est né à partir du Xe siècle. Or, nous disons que, du moins, c'est ce que je dis, hein, je prends ça pour moi, je dis que les Beni Mezrana sont une tribu qui a existé avant qu'il n'y ait les Hirites. Vous savez, quand vous prenez dans le Maghreb, vous avez une première dynastie, ce sont les Rostémides. Je parle Puis vous avez après les Hirites. Les Rostémides, nous savons quel était leur lieu, donc leur emplacement, etc. Mais pour les Hirites, c'est quand même pas loin. C'est la région d'Achir, on n'est pas loin. Ce sont des Sanhaja. De l'autre côté, vous avez les Znata. Il y a donc la naissance. Moi, il me semble que c'est à partir de là, en fait, vous avez deux choses. Moi, je vais prendre un repère archéologique, puisque donc un bâti. Quand vous êtes dans la vieille ville, quand vous êtes en hauteur, dans ce qu'on appelle la crête... en dessous de Bebjdid. Ah. Vous avez, et nous avons fait la visite, c'est vous avez à côté l'école Fatah, c'est Ibrahim Fatah. Vous avez là une construction, c'est la citadelle de Bologhine. Et vous avez un peu plus loin, vous avez une mosquée, c'est la mosquée Sidi Ramdan, que nous considérons comme étant deux éléments qui existent depuis cette période-là. Et à partir de là, il y a la ville elle-même. Donc vous avez tout le bas de la ville qui a été repris par les Hirites. Donc si vous, encore une fois, vous savez, à partir de là, nous avons des écrits. Il y a des éléments archéologiques que nous n'avons pas réussi.
Ce morceau de rempart.
Oui.
Qui se trouve donc sous Babjdid plus Sidi Ramdan.
Oui.
Ce sont les éléments archéologiques les plus anciens.
Voilà, absolument. Ce sont deux constructions qui nous semblent être les plus anciennes, à partir desquelles, si vous voulez. Bon, à partir de là, bon, nous avons une idée du dixième.